Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez RDIWA sur 107.5, que vous pouvez retrouver aussi sur internet www.rdiwa.fr. Olivier de Sepibus au micro. Et donc, je propose une série d'interviews d'artistes. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu Elisabeth Schechlar. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Émile. Émile, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Émile et Elisabeth Schechlar sont des habitants de Die. Alors, je vous invite donc à les rencontrer. Ils invitent au 25 rue Émile Laurent. Ils ont une galerie où sont exposées leurs œuvres et ils ont très grand plaisir à vous recevoir. Ils ont aussi un site internet dont je donne l'adresse. C'est www.artemontagne, tout attaché, .fr. ARTEMONTANGE. ne.fr, voilà, Arte Montagne. Et il délivre aussi des cours particuliers ou en groupe de dessin et de modelage. Je donne aussi leurs coordonnées, c'est le 04 75 21 69 83. Donc, Émile, la semaine dernière, nous avons parlé avec Elisabeth. Nous avons évoqué votre parcours en Pologne, et plus particulièrement aussi son parcours artistique. Cette interview, on peut le retrouver sur Internet, donc je vous invite aussi à l'écouter. Émile, toi, tu es né un 22 mai 1931 en France. Tu es issu d'un mariage mixte entre une Française d'origine alsacienne ou habitant alsacienne et d'un Polonais. Tu as suivi les cours d'un lycée public des techniques plastiques à Bielsko-Biała et à partir de 1953 à la faculté de sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie sous la direction des professeurs Jerzy Januszewicz.
Oui, c'est exact.
Comment l'enfant prend cette direction artistique et qu'est-ce qui te détermine dans cette voie-là?
Bon, alors pour moi, l'art commence d'une petite enfance. Alors c'est une sorte d'art brut que finalement, je n'ai pas quitté jusqu'à aujourd'hui.
Pour préciser, donc, ton père était mineur en France. Il a fait partie de ces Polonais qui sont venus dans les années 20 travailler dans les mines en France.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et ta maman était d'origine paysanne.
Oui.
Tout ça pour dire que tu es né dans un milieu social où l'art ne faisait pas partie de votre quotidien, tout simplement.
Oui, alors avec une petite correction, les gens comme ma mère et mon père, ils étaient dans des régions assez développées, l'Alsace par rapport à la France et la Silésie par rapport à la Pologne.
D'accord.
Et comme ça, les aspirations culturelles, et bon, étaient toujours là, dans ce peuple d'en bas.
Mmh. Tes parents sont retournés en Pologne, tu avais seulement 5 ans. Et tu m'avais dit, hier tu m'as dit quelque chose, c'est que tu as découvert la couleur en arrivant en Pologne.
Oui, ça c'est assez étrange parce que... on est d'origine protestante, et mon père et ma mère, et les images sont assez restreintes. C'est plutôt les mots et les mélodies, la chante, etc. Et ici, en Pologne, j'ai découvert une telle explosion des images du Dieu, de tous les saints et des anges. Et c'était un peu l'art populaire. Et souvent primitif. Et quand j'ai regardé le cœur sur la poitrine de Marie ou de Jésus et les autres saints, j'ai demandé à ma mère, est-ce qu'on a tous un cœur comme ça, en céramique? Alors ma mère a dit non, c'est seulement des imaginations. Et quand même, et tout était vraiment dans des couleurs assez vives et brutes, je dirais.
D'accord. Et très tôt, tu as dessiné.
Ah oui, bon, comme j'ai dit, j'ai commencé avec les têtards et je suis arrivé jusqu'à un dessin parfait.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu, en rentrant et en faisant tes écoles d'art, disons que tu as eu un apprentissage, on va dire, par toi-même jusqu'à l'âge de 17 ans, avant que tu rentres dans l'école. Et quelle découverte ou quel choc esthétique que tu as eu en rentrant dans l'école? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grande découverte?
Alors, une grande découverte, c'était pour moi parce que l'art, pour moi, c'était quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que j'ai eu vraiment une notion d'art. J'ai dessiné et c'était spontané, comme c'est pour tous les enfants qui n'ont pas de contraintes spéciales. Parce que j'étais un peu dans une famille où j'ai beaucoup de liberté. Et je n'étais jamais battu dans ma vie. Et comme ça, j'étais toujours
On t'a
étonné
jamais
que.
empêché de dessiner. De ce fait-là, tu ne savais pas si tu avais une
Non,
notion de l'art, mais finalement, quand tu rentres dans l'école, là, il y a une notion de l'art qui arrive. Et qu'est-ce qui est.
oui, mais ça veut dire pratiquement dans des écoles, il n'y avait pas un cours de dessin. C'était toujours apprendre à écrire, apprendre à lire et compter, par exemple, au début. Naturellement, les élémentaires, bon, c'était très coloré. Ça m'intéressait le plus. Et comme ça, je suis rentré dans les couleurs et spontanément, même si c'était une féerie de couleurs et complètement absurde.
En préparant l'émission, enfin cette interview, hier tu m'as dit qu'en rentrant dans l'école, tu as découvert des peintres comme Kandinsky qui t'ont fait découvrir les couleurs d'une manière que tu avais jamais vue. Et ça t'a ouvert des perspectives, ça.
Oui, encore étant en Allemagne et tout de suite après la guerre, j'ai rencontré dans le paysage un peintre qui peignait de manière, disons, abstraite, comme Kandinsky. Les couleurs étaient très éclatantes. Et moi, j'étais plutôt habitué à regarder Dürer, par exemple.
Dürer qui est avec des couleurs, on va dire, moins
Le classique
éclatantes.
de la
Voilà,
Renaissance.
classique.
La Renaissance successivement et le passage dans le baroque italien, et ça c'était la découverte de la couleur, parce que d'abord il y avait la couleur plutôt locale, après ça c'est devenu plutôt les couleurs qui apparaissent au soleil.
On va suivre ce parcours de la couleur parce que finalement, ton parcours artistique se fait dans cette préoccupation et dans cet presque émerveillement. Ceux qui viendront vous voir, ceux qui oseront venir vous voir, verront chez vous le travail que tu fais actuellement, qui est absolument superbe, sur la perception, sur la couleur. Et qu'on s'aperçoit que aujourd'hui tu travailles des couleurs comme une partition de musique. Mais avant d'arriver là, cher Émile, revenons à tes études de beaux-arts. Tu fais ces études et à la sortie des études de beaux-arts, tu habites à Varsovie, qu'est-ce qui se passe? Quelle direction tu prends?
Bon, alors, parce que j'ai toujours aspiré aux couleurs, mais sauf que il n'y avait pas des études de couleurs ou quelque chose comme ça. Dans l'entourage des Silésiens, en Silésie, quand j'étais là, c'était seulement un lycée d'art plastique, mais il y avait des options seulement. Il y avait le tissage. Et il y avait la sculpture sur pierre, et taille de pierre. Bon, et finalement, bon, taille de pierre, ça me semblait plus art que le tissu. Et comme ça, je suis devenu finalement sculpteur. Mais à la marge de la sculpture, bon, j'ai toujours dessiné. Et de temps en temps, bon,
Et
j'ai
tu
faisais.
sculptais quoi?
Non,
Déjà,
mais
vous pouviez faire de l'abstrait.
c'était encore l'époque où on faisait des études classiques. Il y avait le nu, il y avait un peu de composition différentes thématiques, en tout cas au lycée. Hein, parce que j'ai eu un double parcours artistique au lycée et après aux Beaux-Arts. Mais finalement, c'était une répétition parce que les profs que j'ai eus au lycée, c'étaient des profs qui venaient des Beaux-Arts de Cracovie. Et comme ça, c'était une répétition. Alors, ça me permettait, quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Varsovie, me libérer et des sculptures classiques. C'est seulement les premières, deuxième année, je faisais ce cours-là. Mais après, quand je suis rentré chez Arnushkevitch, bon, où j'ai rencontré Elisabeth, on s'est libéré complètement des carcans d'une sculpture un peu déjà arriérée.
Ancienne, oui. Dans cette libération que tu évoques, après tes études, au moment où tu te mets à travailler, donc si je lis bien, tu rentres à un atelier de mise au point des solides et des surfaces du professeur Oscar Hansen, où tu es son assistant. Et après, tu diriges un atelier de sculpture à la faculté d'architecture d'intérieur de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie à partir de 1964. Là, qu'est-ce que tu enseignes à des étudiants et quelle liberté, finalement, vous avez dans vos créations ?
Bon, alors, il y a deux choses ici qu'il faut dire. Il y avait deux professeurs, Janushkevitch, et l'autre, c'était Oscar Hansen. Et pour moi, le plus important, c'était Oscar Hansen. C'était un architecte, mais qui a un parcours atypique. En Occident, à Paris, il était plusieurs années. Il suivait un peu les cours chez Fernand Léger. Et il était aussi influencé par la théorie de la vision de Strzemiński. C'était artiste peintre polonais des années 20, parce qu'on était en Pologne, il y avait une tendance à s'enfermer sur soi-même.
Sur l'art polonais, c'est ça?
Oui, les peintres polonais, bon, on a une ouverture sur la France surtout, la peinture très coloristique, et c'était tout. Mais Hansen, il m'a ouvert un peu plus large là, sur l'art. Et c'était une ouverture, une fenêtre sur l'art contemporain.
D'accord. Tu as découvert l'art mondial contemporain avec ses professeurs. Et toi, à partir de cette ouverture, qu'est-ce qui t'intéressait dans l'art mondial que tu as découvert? Et qu'est-ce qui t'intéressait, toi, quand tu es devenu enseignant? Qu'est-ce que tu enseignais à tes élèves?
Je m'enseignais justement ce passage de l'art polonais à l'art mondial. Bon, d'abord, j'étais assistant d'Oscar Hansen, enseigné la composition dans l'art plastique. J'ai appris la composition parce que c'était toujours
Est-ce que tu ressentais une influence ou une oppression de l'État par rapport à une liberté d'expression? Est-ce que déjà, dans les années 60...
Il y a une pression, pression de l'État, ça s'appelait art socialiste.
Art socialiste, oui.
Art, on a dit, ouais. en Pologne. Et bizarrement, tous les peintres, même les peintres les plus abstraits, il y avait beaucoup qui se soumettaient à cette option. Et alors, il y avait des ouvriers travaillant en une décoration colorée, etc. Alors, c'était très bizarre.
L'art, on va dire, socialiste, enfin, soumis au régime politique, il se vidait de sa substance, on va dire, artistique, et de sa puissance.
Oui, surtout la force de cet art a subi beaucoup.
Ouais. Et donc là, vous décidez avec Elisabeth de continuer cette aventure de la galerie Repassage qui a été ouverte et dont vous devenez les directeurs.
Et voilà, et là-bas, bon, là-bas, on était déjà beaucoup avancé dans notre agitation. Et ça ressemblait un peu à ce qui se faisait à l'Occident, le Fluxus. Les happenings, etc. Sauf qu'on n'était pas sur l'influence. C'était un peu, je dirais, les mêmes influences de l'extérieur et de la vie de la société qui influençait un peu l'atmosphère dans l'art.
Mais en même temps, vous n'étiez pas soumis au même contexte, au même contexte politique entre Fluxus, ça se passe plutôt en Europe occidentale.
Oui, mais bizarrement, l'art polonaise, malgré tout, la Pologne a beaucoup plus, malgré le rideau de fer.
Oui.
Il y avait beaucoup de Polonais qui ont des parents ou des connaissances à l'Occident. Et
Et
il y avait toujours un lien.
donc il y avait toujours un
Il y
lien. Ouais.
avait des références quelque part là-bas.
D'accord.
En Amérique même et en France naturellement.
Thank you.
Vous écoutez RDIWA sur 107.5. Nous sommes toujours en compagnie d'Émile Cheslard. Nous écoutions à ce propos la musique de Coltrane, que tu apprécies beaucoup, et le morceau était d'occasion puisque c'était le morceau Peace on Earth. Émile, on va donc avancer sur cette aventure de la galerie. Et donc tu es professeur aux Beaux-Arts et la galerie est une opportunité pour vous pour développer ce que vous ne pouviez pas faire au sein des cours.
Et voilà. Alors j'invitais souvent les étudiants pour voir ce qui se faisait dans la galerie Repassage, qui était en face des Beaux-Arts, et sur une rue très historique et très agitée. Il y avait beaucoup de touristes et beaucoup de cafés.
Donc vous étiez en vue, oui, c'est ça. Et donc vous étiez en vue, c'était une... Alors, je vais repréciser cette galerie. C'était une galerie qui n'était pas officielle, qui n'était pas représentée par l'État. C'était la première galerie, on va dire, indépendante de Varsovie. Enfin, pas la première, mais disons l'unique à cette heure.
On a fait beaucoup de bruit et de parler de nous.
Cette aventure a duré pratiquement 10 ans, mais vous étiez présent au sein de la galerie jusqu'en 1979, au moment où vous avez dû partir de la Pologne. Et donc pendant ces 5 ans où vous étiez à la galerie, toi tu invitais les étudiants à exposer.
Mmh, voilà. Alors, les ressources de la galerie, c'était les étudiants qui venaient voir, et souvent, certains faisaient des expositions, même plusieurs fois. Et Elisabeth, par contre, a eu des contacts avec les autres milieux artistiques du pays.
Alors j'invite les auditeurs à écouter l'interview d'Elisabeth où on évoque plusieurs œuvres que vous avez créées ensemble, car ces œuvres étaient faites tous les deux. Vous étiez vraiment co-créateurs. Il y a donc la tête d'éléphant rose qui est immense. Donc il y a plusieurs choses et ensemble on va évoquer cette performance que vous faites en 1979 où toi tu es assis. Là, vous êtes dans la galerie, je suppose.
Voilà. C'est la galerie.
C'est une performance qui dure 3 jours, c'est ça ?
Voilà.
Donc, le premier jour, qu'est-ce qui se passe ? Et tu es assis dans la galerie et tu es habillé en bouffon.
Voilà, c'est...
En rouge.
On a fait une reconstruction dans l'espace d'une peinture d'un peintre un peu comme Delacroix en France. Il s'appelle Matejko. Il y a un peint bouffon du roi du XVIIe siècle dans une pose et un geste qui montre le déclin de la Pologne. Je suis habillé en rouge.
Qui est une des deux couleurs de la Pologne, ce qui est important.
Alors, les couleurs de la Pologne, c'est blanc-rouge.
Voilà.
Alors, je suis habillé... C'est une symbolique des couleurs. Mm-hmm. Je suis habillé en rouge, mais les bouffons du roi étaient en rouge aussi.
Bien sûr.
Et ça c'est un tableau connu dans toutes les Polonais. Il s'appelle Steinschick. Et la première pantomime, je dirais, ça s'appelait le premier tableau, ça s'appelait d'objet Steinschick. Alors ça veut dire ça va Steinschick. Steinschick s'appelait le bouffon du roi.
D'accord. Okay. Donc la référence à ce tableau est claire. Et donc le premier jour, qu'est-ce qui se passe ? Tu es assis dans la galerie, tu t'habilles en bouffon.
Elisabeth, elle présente les peintres qui peint les Steinschick rouges tout en blanc.
Donc tu es peint en blanc.
Et je deviens blanc.
Tu deviens... Elisabeth te peint en blanc.
Oui, voilà.
D'accord. Donc du rouge, tu deviens blanc.
Oui. Et quand je suis déjà tout blanc, et tout ça, c'est naturellement pantomime, ça c'est en silence. En silence, et à la fin, quand je suis tout blanc, il y a une voix féminine qui chante la internationale. Et en ce moment, j'ai fait un geste d'applaudissement. sans donner aucune voix. Hein.
D'accord.
Et dans ce geste, alors je m'arrêtais et tout s'arrêtait. Il n'y a personne qui a bougé. Ça a duré plusieurs minutes et les fenêtres de la galerie elles étaient ouvertes. De la rue, les gens étaient aussi arrêtés. Et il se trouvait que dans la rue qui était en face, il y avait des homos polonais.
Des
homos.
D'accord, ok.
Polonais.
D'accord.
On attendait qu'il se passe quelque chose, mais il ne s'est passé rien du tout. Même on a éteint les lumières dans la galerie, il y avait une lumière pâle qui tombait dans la galerie. Et j'étais dans ces lumières pâles, presque comme un spectre.
Parce que toi, tu étais toujours, tu es resté sur assis,
oui.
Peint en blanc,
oui. sans bouger,
oui. Et pendant combien de temps?
Je sais pas, ça, pour moi, ça a duré éternité.
Une éternité,
oui. Oui, parce que c'était un geste, j'ai eu mal même.
Oui, oui. Donc, vous situez à ce moment-là sur le lieu de la subversion. Vous essayez de travailler sur les questions de la liberté. Vous travaillez sur les questions de la soumission politique à laquelle les Polonais sont contraints. Vous décidez de partir en France. Et arrivé en France, toujours référence à l'interview que... mené la semaine dernière avec Elisabeth, vous continuez votre lutte auprès du syndicat Solidarność. Et toi, arrivé en France, tu entames ou tu continues cette recherche artistique sur les couleurs que nous allons aborder, puisque c'est un travail artistique. Arrivé en France, qu'est-ce que tu expérimentes? Qu'est-ce qui s'ouvre pour toi? Vers quelle direction tu vas?
On est arrivé avec toute la famille, alors ça veut dire trois enfants. Toutes les vacances, on partait en montagne. Et finalement, c'est la nature qui nous intéressait beaucoup. Et à la marge de ça, j'ai regardé les paysages que peignent les impressionnistes. Et après, les pointillistes, etc. Jusqu'à Delaunay,
d'accord.
Robert Delaunay, qui est un peu des jacobistes, mais ses sources, la peinture, ça vient... un peu des recherches des pointillistes. Bon, et après, j'ai commencé, parce que la peinture impressionniste, ça, je faisais déjà au lycée, et parce que les profs nous montraient les impressionnistes français. Alors, j'ai pas répété ça. J'ai commencé plutôt, je me lançais plutôt dans l'analyse des impressionnistes en faisant des choses plutôt abstraites, beaucoup de gammes, gammes de couleurs.
Voilà, et donc là, il commence le travail des gammes de couleurs.
Alors, je m'inspirais un peu de Monet. Il peignait, par exemple, la cathédrale de Rouen. Tous les 2 heures ou 2 heures, il changeait le tableau, parce que la lumière changeait. Et ça, il répétait plusieurs jours. À chaque heure, il peignait un autre tableau.
Et donc, toi, tu confectionnes une gamme de couleurs avec des boîtes d'allumettes, c'est ça?
J'ai mis des épreuves dans les boîtes d'allumettes.
Et pourquoi dans des boîtes d'allumettes? Pourquoi tu... Donc, c'est des petits carrés de couleurs que tu mets dans des boîtes d'allumettes. Et il y en a combien? Des dizaines de boîtes d'allumettes, j'imagine.
Beaucoup, je ne sais pas. Il y avait tout un tas, je n'ai pas compté.
D'accord.
C'était quand même nous anciens, mais c'était plutôt... J'ai testé ma sensibilité de mon œil, d'une part, et deuxième part, c'était un peu regarder comment ça se présente par rapport à des théories de couleurs. Parce qu'il y avait une théorie, par exemple, Chevreul, après il y avait une théorie de couleurs de Goethe.
Donc toi, tu as mis en place, on va dire, une théorie qui te soit propre. Enfin,
pour moi, c'était une théorie de la musique des couleurs.
Voilà. Et cette idée de musique des couleurs, à quel moment ça te vient? C'est dès ce moment-là ou c'est un peu plus tard que tu associes
quand les couleurs et la musique? Quand j'étais un peu au bout de mes épreuves... que j'ai mis dans des boîtes d'allumettes parce qu'il fallait ça stocker, parce que si je mets ça comme par terre, Ça s'est remplissait et plusieurs pièces. Et comme ça, et j'ai commencé aussi par hasard un peu des spots colorés. Et j'ai mis dans la pièce, et j'ai projeté ça dans notre appartement. Où j'ai une sorte de régie où j'ai modelé les lumières. Après, j'ai un écran et ça projetait des ombres colorées. Et toutes ces épreuves que je faisais en couleur, c'était aquarelle ou gouache. Mais les lumières, ça me permettait de faire des gammes instantanément. Et je pourrais des gammes changer. C'était la vitesse de la lumière presque.
écoutez Radio Diwa 107.5. Nous sommes en compagnie de... Vous êtes sur Radio Diwa 107.5 en compagnie d'Emile Schlar. Et le morceau qu'on écoutait, c'est un morceau de Louis Clavis dont le nom c'est Rouge. Cher Emile, on était en train d'évoquer tes recherches sur les couleurs. Et ce qui t'intéresse, à la limite, c'est plus la question de la perception de la couleur que celle de la composition. Et c'est comme ça que tu passes du pinceau coloré au faisceau de lumière. Comment tu établis ce que tu appelles tes gammes de couleurs pour ensuite faire de la musique ?
Ça m'intéresse beaucoup la perception des couleurs et j'ai commencé un peu par étudier la théorie de la Gestalt. C'est une théorie structuraliste par excellence. Mais la perception, naturellement, de la perception, il y a un pas dans la conception, et dans la composition. Mm-hmm. Parce que c'est qu'on... La perception, c'est percevoir la composition, finalement. Mm-hmm. La composition, mm-hmm, des gammes, mm-hmm, et finalement des suites, des harmonies, mm-hmm, et des mélodies, des couleurs.
Voilà. Donc, de la même manière qu'une musique va plutôt nous susciter de la gaieté ou de la joie ou de la tristesse, mm-hmm, les couleurs vont aussi nous susciter plutôt de la gaieté, de la joie, enfin vont nous susciter des sentiments tout bêtement. Et tu vas créer une installation avec laquelle tu vas jouer avec un piano de théâtre d'ailleurs.
Oui, j'appelle ça orgue de couleurs.
Un orgue de couleurs.
Alors ça ressemble un peu au début à orgue des lumières du théâtre. Mm-hmm. Alors j'appelle ça orgue de couleurs parce que mes couleurs que j'utilise, elles sont accordées entre eux. Et j'ai plusieurs gammes et des couleurs qui font harmonie en soi. Mm-hmm. Parce que les couleurs dans l'orgue des couleurs, l'orgue des lumières, ne sont pas forcément accordées. Mm-hmm. Alors mes couleurs sont accordées aussi précisément que dans un instrument d'un orchestre.
J'ai eu la chance de voir cette installation. Installation que tu peux, à l'occasion, faire découvrir à toute personne qui te le demande. Ouais. Et ça demande un peu de préparation, donc il faut prendre rendez-vous. Mais ça, toute personne qui te le demande, tu peux leur montrer.
Ah oui, bien sûr.
Et cette musique de couleurs va s'ouvrir à quelque chose d'assez extraordinaire qui est la musique des étoiles. Comment les étoiles...
C'est ma dernière chose.
Voilà, c'est la dernière chose. Et comment les étoiles arrivent dans ton univers, enfin dans tes créations, la nuit, les étoiles...
Oui, l'inspiration est presque dans l'Antiquité, parce que la musique, c'est l'art des muses. Bon, sauf que l'art, l'Antiquité... La notion de l'art était complètement d'autre que notre conception de l'art, ouais, d'aujourd'hui. Ouais. Il y a la musique des sphères. Et dans la musique des sphères, elle est encore ancrée dans la musique traditionnelle parce que chaque son correspond à certaines planètes, mais chaque son correspond à des notes de ré, mi, fa, sol, la, si, do, par exemple. Et pour faire tout un spectre sonore, il faut des octaves, je ne sais pas, peut-être 11 octaves.
Oui, c'est ça.
C'est assez restreint. Alors, comment faire maintenant la musique? Alors, j'ai élargi que je ne joue plus les notes de ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais je prends un spectre sonore et je les mets sur un spectre coloré.
Coloré.
Et comme ça, je couvre les spectres ensemble.
D'accord.
Alors ça, c'est un peu ma théorie générale. C'est difficile à évoquer ici sur le micro.
Pour rendre visuel ton installation, au mur, sur un rideau sombre, plutôt noir d'ailleurs, oui, tu as recréé la carte du ciel,
oui, hein,
avec toutes les constellations.
Oui.
Et chaque constellation est colorée.
Oui.
Chaque, on va dire, oui. Chaque étoile a une grandeur selon oui. L'importance que l'on, oui. Enfin, disons, l'importance qu'il y a dans le ciel et la distance avec oui. la Terre. C'est déjà une œuvre d'art assez oui. Remarquable et, oui. et déjà très belle. Et en plus, tu nous plonges dans le noir et tu joues avec plusieurs donc sources lumineuses oui. et qui éclairent de façon très fine ta carte du oui. Des étoiles et apparaissent. Ou disparaissent, tu fais jouer comme ça des couleurs, de leur scintillement et en même temps de leur apparition, disparition sur cette grande toile ouais. sombre.
Ouais. Voilà, bon, alors ici je dois évoquer, parce que c'est la lumière, et bon, il y a un spectre lumineux. Notre spectre lumineux, bon, c'est un peu l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel est. Ce sont des couleurs de notre soleil. Mmh. Alors, et notre soleil est une étoile.
Une étoile, oui.
Une étoile. Alors, cette étoile, le ciel, le quart du ciel, ça, ce sont des milliards d'étoiles. Mmh. Mais et les étoiles ont leur spectre propre. Bon, des milliards, bon, ça, c'est tellement...
Donc, ce qui veut dire, c'est que la couleur que tu as donnée sur ta carte correspond à une dominante du spectre, de leur spectre. Donc, celles qui sont plutôt rouges.
Sont... Parce que le soleil, par exemple, il a un spectre des couleurs des étoiles qui ressemble un peu à un spectre, disons, de l'arc-en-ciel. Mm-hmm. Sauf qu'il y a des petites nuances que je ne vais pas évoquer ici parce que ça, il faut regarder. Et parce que normalement, on voit seulement les étoiles blancs oui. à l'œil nu.
Oui.
Mais on sait déjà, grâce aux télescopes
oui.
et aux photographies colorées des étoiles, que les étoiles ont leur couleur propre. Alors, et comme ça, les étoiles sont classées dans des différents spectres. Alors, le spectre des étoiles est assez semblable du spectre solaire qu'on connaît, par exemple, classé dans le jaune. Bon, déjà, les enfants peignent le soleil en jaune.
En jaune.
Et la classification est telle que les couleurs correspondent à la température et de la surface des étoiles.
Voilà. Donc il y a des étoiles qui sont plutôt rouges, d'autres qui sont plutôt bleues.
Voilà, les étoiles rouges sont froides.
Mm-hmm.
Et les étoiles
bleues
sont les plus chaudes.
Oui.
Alors, mais la classification qui vient peut-être des impressionnistes ou des autres peintres du 19e siècle, alors on a classé les couleurs du spectre en la partie froide et partie
voilà.
chaude.
C'est la différence entre
alors,
la physique...
La partie chaude était voilà. rouge voilà. et la voilà. partie froide était bleue.
C'est la différence entre la physique et voilà. la culture et les symboles oui. qu'on voilà. a associés à une, voilà. à une couleur.
Parce que la classification, disons, antique était encore d'autres.
Ouais. Et aujourd'hui, vous menez avec Elisabeth un travail auprès des écoles et vous proposez donc aux scolaires de faire cette intervention d'orgue de couleur.
On a fait avec les enfants, les tout petits et des maternelles et après des CP. On a fait du théâtre et de l'ombre.
Des théâtres d'ombre, oui.
Ça ressemblait à des ombres chinoises, sauf que c'est grandeur nature. Et les couleurs, et c'est coloré.
Ouais. Et les enfants, de quelle manière ils reçoivent ton installation et ce jeu que l'on peut faire avec les couleurs?
Bon, alors, c'est un peu magique, parce que quand j'ai commencé même les couleurs tout au début, le jeu de couleurs par hasard, alors c'était la force hypnotique du jeu de couleurs. C'est un peu, on peut ça comparer, par exemple, certaines mélodies, la musique, mm-hmm. ils ont, la musique, elle a aussi un impact hypnotique sur les gens. Après, il y a aussi des musiques comme rock, etc., et ça, c'est excitant. Alors, c'est un impact psychologique très fort. et de même la couleur. Et quand les gens rentrent dans le faisceau de l'orgue des couleurs, ils baignent presque dans les couleurs. Mm-hmm. Ils voient les couleurs partout, sur les mains, mm-hmm. et sur le visage. J'ai regardé comment les gens bougent avec les mains et les couleurs.
Ça se modifie en même temps que l'on bouge, les couleurs changent sur notre...
L'arc-en-ciel passe par la main.
Passe par la main, ouais.
Et la main devient rouge et se transforme dans... passe par toutes les couleurs jusqu'au bleu, etc. C'était étonnant comme elle baignait presque dedans. Mmh.
Écoute, Émile, je forme le vœu et j'espère que cette installation, on va pouvoir la rendre visible aux Diwa, pas qu'aux enfants. Nous allons tenter de trouver un endroit pour que cette œuvre soit visible. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi et que tu aies évoqué ton parcours artistique. Je le répète encore que vous êtes absolument accessible au 25 rue Émile Laurent. Vous verrez des volets ouverts et la pancarte annonçant art et montagne, et que vous êtes absolument ouvert à toute rencontre. Voilà. Écoute, Émile, merci. Peut-être qu'on trouvera d'autres occasions pour faire une interview. Et en tout cas, je l'espère.
J'aimerais bien partager mes émotions et mes passions et des couleurs avec tout le monde, des enfants jusqu'à les vieillards.
Merci.
Merci également.